BriefMe, édition du 13 mars 2024.
Dans BriefMe aujourd'hui, un rapport sur l'intelligence artificielle, une infographie sur les exportateurs d'armes et les approximations judiciaires au cinéma.
On rembobine.
Méthane. La production et l'usage d'énergie fossile ont entraîné une légère augmentation des émissions de méthane, l'un des principaux gaz à effet de serre, en 2023 par rapport à 2022, selon des chiffres publiés aujourd'hui par l'Agence internationale de l'énergie. Cette organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés du monde estime qu'il faudrait réduire de 75% les émissions de méthane liées aux énergies fossiles d'ici 2030 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.
Opposition russe. Leonid Volkov, ancien chef de cabinet de l'opposant russe Alexei Navalny, a été agressé hier soir près de son domicile, en Lituanie, a annoncé l'ancienne porte-parole d'Alexei Navalny. L'assaillant a brisé la vitre de sa voiture et l'a frappé à coups de marteau, a-t-elle précisé. Leonid Volkov a qualifié aujourd'hui l'attaque de message criminel typique de Vladimir Poutine, le président russe.
Dividende. Les 1200 plus grandes entreprises du monde ont versé 1660 milliards de dollars, environ 1500 milliards d'euros, de dividendes à leurs actionnaires en 2023, un montant record et en hausse de 5,6% par rapport à 2022, selon un bilan publié aujourd'hui par le gestionnaire d'actifs Janus Henderson. 22 pays enregistrent des distributions records en 2023, dont la France, où les dividendes ont atteint l'équivalent de 62,7 milliards d'euros, soit une augmentation de 10,3% par rapport à 2022.
France-Ukraine. L'Assemblée nationale a adopté hier soir par 372 voix contre 99 et sans une abstention l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. Les 88 députés RN se sont abstenus tandis que les 75 députés LFI et les 22 députés communistes ont voté contre cet accord. Conclu le 16 février, il prévoit la fourniture d'une assistance globale à l'Ukraine par la France. Le vote des députés est symbolique, c'est-à-dire sans valeur contraignante.
Cyberattaque. France Travail et Cap Emploi ont annoncé aujourd'hui avoir été victimes d'une cyberattaque lors de laquelle des données personnelles de demandeurs d'emploi ont été extraites et sont donc susceptibles d'être divulguées et exploitées de manière illégale. Les organismes d'accompagnement dans l'emploi précisent que les données personnelles de 43 millions de personnes ont été potentiellement volées, mais que les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés.
Médias. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a affirmé hier soir vouloir instaurer dès cette année une gouvernance unique pour l'audiovisuel public afin de le rendre plus puissant, plus efficace. Elle a aussi dit vouloir pérenniser le financement de l'audiovisuel public par une fraction du produit de la TVA. Ce mécanisme a été mis en place à l'été 2022 pour compenser la suppression de la redevance télé, mais doit s'achever fin 2024. L'audiovisuel public comprend plusieurs sociétés telles que France Télévisions, Radio France et France Média Monde, France 24, RFI, etc.
Tout s'explique.
Un rapport optimiste sur le potentiel de l'IA en France.
Le rapport rendu aujourd'hui à Emmanuel Macron prévoit un effet positif de l'IA sur l'emploi ou la croissance.
Le Parlement européen a adopté une législation contraignante pour réguler l'IA.
Que contient le rapport sur l'intelligence artificielle remis aujourd'hui ?
La Commission de l'intelligence artificielle, IA, a remis aujourd'hui son rapport à Emmanuel Macron. Cette commission, lancée en septembre, est composée de 15 experts, dont près de la moitié sont en poste dans des entreprises du secteur. L'un des objectifs fixés par le gouvernement à son lancement était de faire de la France un pays à la pointe de l'IA, notamment face à la concurrence américaine et chinoise. Le rapport veut dédiaboliser l'IA, sans pour autant l'idéaliser, il prévoit un effet positif sur l'emploi, sur la qualité de vie au travail ou encore sur la croissance. La Commission propose notamment la création d'un fonds d'investissement doté de 10 milliards d'euros, un plan de formation de la nation et une réorientation de l'épargne vers l'innovation. Le rapport reconnaît toutefois plusieurs risques liés à l'IA, comme la disparition de certains métiers et la concentration de son développement entre les mains d'un nombre réduit d'entreprises.
Quelles mesures sont proposées concernant l'éducation ?
L'un des axes de réflexion de la Commission concerne la transformation des services publics. Dans ce cadre, l'éducation est l'un des domaines où l'impact de l'IA générative pourrait être le plus grand, même s'il ne se prête pas bien à la standardisation, selon le rapport. Il suggère plusieurs mesures, encourageant par exemple les enseignants à se servir de l'IA dans la préparation de leurs cours. À terme, le rapport envisage d'utiliser l'IA pour automatiser une partie des corrections ou fournir du tutorat personnalisé aux élèves. La plateforme d'orientation Parcoursup est vue comme un support à l'introduction de l'IA. Le syndicat d'enseignants SNES-FSU a publié en décembre une synthèse redoutant que le déploiement de l'IA générative dans l'éducation n'aboutisse à une dépossession des professeurs. Il critiquait le recours à des solutions technologiques plutôt que d'améliorer les conditions de travail des enseignants, par exemple en réduisant le nombre d'élèves par classe.
Où en est la régulation de l'IA dans l'Union européenne ?
Le Parlement européen a voté à une large majorité aujourd'hui la première loi contraignante au monde sur l'IA, selon le co-rapporteur du texte. La législation interdit certaines applications fondées sur l'IA, par exemple la notation sociale, utilisée en Chine. L'utilisation des systèmes d'identification biométrique par les forces de l'ordre est strictement encadrée. Des obligations strictes de transparence ou de supervision humaine sont prévues pour les systèmes à haut risque, en raison de leurs préjudices potentiels pour la santé, la sécurité ou la démocratie. La loi doit maintenant être adoptée officiellement par le Conseil de l'Union européenne, qui réunit les ministres des États membres en fonction des sujets. Le projet, présenté en 2021 par la Commission européenne, l'une des deux branches exécutives de l'Union européenne, a donné lieu à un accord avec le Conseil de l'Union européenne en décembre.
Ça se chiffre.
La France devient le deuxième exportateur mondial d'armes.
La France est devenue sur ces cinq dernières années le deuxième pays exportateur d'armes dans le monde, devançant pour la première fois la Russie, selon les données publiées lundi par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, un institut d'études stratégiques. Les exportations d'armes de la France ont augmenté de 47% entre la période 2014-2018 et la période 2019-2023, tandis que celles de Russie ont diminué de 53%. Cette croissance est tirée par la hausse des livraisons d'avions de combat. La France profite de la forte demande mondiale pour dynamiser son industrie d'armement par le biais des exportations, explique Katharina Djokic, chercheuse au CIPRI. Les premiers clients de la France sont l'Inde, le Qatar et l'Égypte. L'Ukraine est devenue le plus grand importateur européen d'armes en 2019-2023 et le quatrième au monde. Au moins 30 États lui ont fourni une aide militaire après l'invasion du pays par la Russie en février 2022, selon le CIPRI.
Ça alors.
La mortalité infantile atteint son plus bas niveau dans le monde.
Le nombre d'enfants morts avant leur cinquième anniversaire a atteint un niveau historiquement bas, environ 4,9 millions, dans le monde en 2022, selon un rapport publié hier soir par un groupe de recherche de l'ONU. Il a diminué de 51% depuis 2000. La majorité de ces décès ont lieu en Afrique subsaharienne et près de la moitié concernent des bébés de moins de 28 jours. Les causes de mortalité principales ont en effet trait à des complications au moment de la naissance et à des maladies infectieuses. Le rapport alerte toutefois sur un ralentissement des progrès et la persistance d'inégalités importantes. Un enfant a ainsi 80 fois plus de risques de mourir avant 5 ans dans les pays où la mortalité infantile est la plus élevée par rapport à ceux où elle est la plus faible. Pour continuer à faire baisser ces décès, les chercheurs citent l'amélioration de l'accès aux soins primaires, les accouchements assistés par des soignants, la vaccination ou la réduction de la malnutrition.
Ça vaut un clic.
Incohérence juridique.
Lors du procès de Sandra, dans le film Anatomie d'une chute, on voit un avocat général virevoltant, directif, une présidente en retrait, un avocat intime avec sa cliente et une nounou judiciaire. Le cinéma doit-il représenter la justice de manière réaliste ? À quoi servent les approximations dans les films et d'où viennent-elles ? Dans une courte vidéo, France Culture fait intervenir deux spécialistes du droit pour répondre à ces questions.
Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à avoir bien démêlé la justice.
Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Maya El-Boudrari et Nicolas Filiot.